Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Baisse record du chômage en août, un recul de près de 2% dont se félicite le gouvernement. Et pourtant, le nombre d'inscrits à Pôle emploi continue à augmenter. Dans ce journal, les explications de Maxime Fayol et le commentaire de notre invité, le sénateur LR Philippe Dallier, rapporteur de la commission d'enquête sur les chiffres du chômage. Le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, supprime les unités de déradicalisation en prison. Il veut mettre à l'isolement les islamistes radicaux les plus dangereux. Nous verrons cela avec Delphine Gotcho. La bataille de Mossoul bien engagée selon les ministres de la Défense de la coalition réunis à Paris avec déjà un nouvel objectif, Raqqa, le fief syrien de l'État islamique. Les précisions à venir d'Élise Delève. C'est un résultat historique. En septembre, le chômage a reculé de 1,9% par rapport au mois d'août. 66 300 chômeurs de moins. C'est la plus forte baisse mensuelle depuis 1996. Un bon chiffre qui intervient après la forte hausse d'août où l'on avait enregistré 50 000 chômeurs supplémentaires. Il y a aujourd'hui en métropole 3 490 000 personnes au chômage complet, la fameuse catégorie A. Et pourtant, Maxime Fayol, il faut relativiser ce résultat car le nombre d'inscrits à Pôle emploi continue, lui, à augmenter.
Il faut s'intéresser au nombre total, toutes catégories de chômeurs confondues, pour se rendre compte que le chômage ne recule pas. Il y a plus de 6 200 000 personnes inscrites à Pôle emploi, un chiffre certes en diminution par rapport au mois dernier, mais qui progresse de 2% sur un an. Cela représente 125 000 inscrits supplémentaires. Alors pourquoi la catégorie A, la catégorie la plus médiatique, est-elle la seule à afficher un recul, assez net sur un an d'ailleurs, de 1,7%? Eh bien, car le gouvernement a mis les bouchées doubles sur les entrées en formation. En début d'année, François Hollande a décidé de doubler leur nombre de 500 000 à 1 million d'ici la fin d'année. Et quand un chômeur est en formation, il sort de cette catégorie A pour rejoindre la catégorie D. Il suffit alors de se pencher sur les chiffres de cette catégorie pour s'apercevoir du trompe-l'œil. En un an, cette catégorie a bondi de plus de 16%. Et Pôle emploi confirme cette statistique, le nombre de chômeurs dans les catégories A, B, qui entre en formation progresse de plus de 85% en un an. L'accent a donc largement été mis sur les entrées en formation et notamment chez les plus jeunes. Ce sont en effet les moins de 25 ans qui ont principalement déserté la catégorie A.
Maxime Fayol, alors les chiffres de Pôle emploi sont-ils biaisés? On en parle avec notre invité Philippe Dallier, sénateur Les Républicains de Seine-Saint-Denis, soutien de François Fillon. Bonsoir.
Bonsoir.
Philippe Dallier, je précise que vous êtes le rapporteur de la commission d'enquête du Sénat sur les chiffres du chômage. Peut-être d'abord un premier commentaire sur cette baisse record de septembre. Ces chiffres sont-ils fiables à vos yeux?
Alors, je ne vais pas me lancer dans le commentaire du chiffre de la catégorie A, puisque dans les conclusions de notre rapport, nous préconisons justement de ne pas se focaliser uniquement sur ce chiffre. Voilà, donc ce chiffre était en forte hausse. Vous voyez, je déroge un peu à ce que je viens de dire, mais enfin, ce chiffre était en forte hausse le mois dernier, il est en baisse plus significative encore pour le mois de septembre. Ceci étant dit, ce que nous aimerions, c'est que tout le monde prenne un peu de recul et qu'on analyse les choses un peu plus dans la durée et avec plus d'informations encore de la part de Pôle emploi pour comprendre ce qui se passe.
Donc ça veut dire que ce chiffre, selon vous, ne dit pas grand-chose de l'état de l'économie française ?
En tous les cas, si on le prend tel que, il ne dit pas si les gens ont retrouvé un travail à temps partiel, moins de 78 heures, plus de 78 heures. Il ne dit pas si les entrées en formation comptent pour beaucoup dans la diminution de la catégorie A. Il ne dit pas si les emplois aidés qui sont dans la catégorie E, effectivement, sont pour beaucoup dans la diminution du chiffre de la catégorie A. Et c'était la même chose à l'inverse le mois précédent, lorsque les chiffres de la catégorie A augmentaient. Les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Et voilà, chaque mois, à la même heure, à la même époque, eh bien, on se focalise sur ce chiffre des catégories A et ça ne nous paraît pas satisfaisant.
En fait, Pôle emploi comptabilise des gens qui ne sont pas tous au chômage.
Pôle emploi fournit beaucoup de chiffres. Et dans les catégories A, vous n'avez seulement que les gens qui sont complètement privés d'emploi, ceux qui n'ont pas travaillé du tout dans la période de référence. Dans la catégorie B, vous avez des gens qui ont travaillé jusqu'à 78 heures par mois. Et dans la catégorie C, on peut même y trouver des gens qui ont travaillé à temps complet, mais qui, eux, souhaitent effectivement peut-être changer d'emploi et qui sont inscrits à Pôle emploi pour bénéficier des services de Pôle emploi, qui est là aussi pour, j'allais dire, orienter, conseiller ceux qui cherchent une autre orientation professionnelle. Donc, voilà pourquoi les choses sont complexes et se focaliser sur cette catégorie-là, ça n'est pas satisfaisant.
C'est tout de même une anomalie que des gens qui ont une activité à temps plein puissent se retrouver dans les statistiques de Pôle emploi.
Ben oui, on peut le voir comme tel, effectivement, parce qu'en catégorie C, vous avez des dizaines de milliers de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, mais Pôle emploi n'est pas que le service d'indemnisation suite à la mutualisation qui a été effectuée il y a quelques années. Pôle emploi est aussi un service public de l'emploi qui aide les gens à se former, à se réorienter. Donc ça n'est pas anormal que ces gens s'adressent à Pôle emploi. Pôle emploi est aussi là pour ça. Maintenant, quand on additionne les chiffres de la catégorie A, B et C, ben on inclut des gens qui effectivement, peuvent travailler à temps plein et même en CDI. Donc, alors c'est peut-être marginal sur le total de plusieurs millions de personnes qui sont dans ces trois catégories, mais tout cela pour démontrer que bon, les choses sont plus complexes et il faut aller plus loin.
Philippe Dallier, il y a à côté des chiffres de Pôle emploi, ceux de l'INSEE. Quelle différence y a-t-il entre ces deux thermomètres ?
Alors d'abord, l'INSEE ne produit un chiffre que tous les trois mois. Et ce chiffre, lui, est issu d'un très gros sondage, puisqu'on interroge entre 90 000 et 100 000 personnes. Et à ces personnes, on leur pose trois questions bien précises. Est-ce que vous avez travaillé dans la période de référence ? Si la réponse est non, première bonne réponse entre guillemets. Est-ce que vous êtes immédiatement disponible pour retrouver un emploi ? Et est-ce que vous êtes en recherche active d'emploi ? Si la personne répond à ces trois questions, la personne est alors comptabilisée effectivement comme étant au chômage et en recherche d'emploi. Et là, le chiffre fourni par l'INSEE tous les trois mois, il est autour de 2 800 000 personnes. Vous voyez qu'on est très loin des 3 500 000 personnes de la catégorie A. Donc on a là deux définitions du chômage. Celle fournie par l'INSEE est une donnée qui nous permet de nous comparer aux autres pays européens parce que avec ce mode de calcul du nombre de chômeurs, tout le monde le fait de la même manière. Et une des questions qui avait été posée par la commission d'enquête, c'est que depuis un certain nombre d'années, le chiffre donné par l'INSEE et celui donné par Pôle emploi en catégorie A, l'écart entre les deux s'est creusé de manière très importante. Donc ça aussi, ça mérite effectivement de s'y intéresser pour comprendre le marché du travail dans notre pays.
Vous êtes favorable à la publication mensuelle des chiffres du chômage ou bien faut-il espacer cette publication ?
Non, on s'est posé la question effectivement au sein de la commission d'enquête, mais si nous avions préconisé de ne plus publier le chiffre mensuel, on nous aurait accusé de vouloir casser le thermomètre. Donc on a plutôt effectivement formulé la proposition que l'INSEE, au lieu de sortir un chiffre tous les trois mois, sorte aussi un chiffre mensuel, ce qui est très certainement possible avec un peu plus de moyens, mais je pense qu'il n'est pas très compliqué d'y parvenir. Et à ce moment-là, ça permettrait dans l'analyse de prendre malgré tout un peu plus de recul. Ceci étant dit, que ce soit les chiffres de Pôle emploi ou les chiffres de l'INSEE, il est intéressant de les regarder sur trois mois et l'évolution également sur un an. Parce que d'un mois sur l'autre, on voit bien, le mois dernier, tout le monde disait l'inversion de la courbe du chômage n'aura pas lieu. Ce mois-ci, je pense que le Premier ministre va se précipiter pour nous dire que tout va mieux. Bon, c'est vraiment trop court comme raisonnement.
Philippe Dallier, sénateur Les Républicains, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Le gouvernement est-il en train de renoncer au principe de déradicalisation pour remettre dans le droit chemin les islamistes les plus dangereux ? En tout cas, le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, a annoncé ce matin la fermeture de toutes les unités carcérales dédiées aux détenus radicalisés, les UPRA. Il y en a 5 créées après les attentats de novembre 2015 qui prennent en charge 72 individus au total. Ces UPRA ont donc vécu. Elles seront remplacées par des quartiers d'évaluation. Tous les détenus impliqués dans des affaires de terrorisme, 1300 aujourd'hui, seront évalués et les plus dangereux seront soumis à un régime de détention proche de l'isolement. Les explications de Delphine Gocho.
Pour Jean-Jacques Urvoas, il ne peut y avoir une seule réponse face à ce qu'il appelle, reprenant les mots du président du tribunal de grande instance de Paris, une déferlante à venir des détenus radicalisés. Tous n'ont évidemment pas le même profil. Certains pourront sortir de cette idéologie. D'autres, estime le garde des Sceaux, sont irrémédiablement ancrés dans un islam radical. Le ministre de la Justice préfère d'ailleurs parler de désengagement de la violence.
Je n'utilise pas le terme de déradicalisation, parce que je ne crois pas que l'on puisse inventer un vaccin contre cette tentation. Et donc, ce qui m'importe, c'est le désengagement de la violence.
Parmi ces pistes, donc, l'évaluation des détenus radicalisés pendant une période de 4 mois, afin de savoir vers quel dispositif les orienter. Pour les plus dangereux, 300 places à l'isolement, disséminées sur tout le territoire, et un régime de détention sous très haute sécurité. Pour ceux susceptibles de sortir de la radicalisation, des prises en charge individuelles au sein de 27 établissements, prises en charge également spécifiques pour les femmes au sein de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Le garde des Sceaux qui mise aussi sur le développement du renseignement avec la création d'un bureau central du renseignement pénitentiaire d'ici février pour lutter contre la radicalisation violente.
Delphine Gotcho. À Calais, le démantèlement de la jungle suit son cours. Depuis hier, 4014 migrants ont été mis à l'abri selon la terminologie du ministère de l'Intérieur. Dans le détail, 3243 majeurs ont quitté Calais en bus pour rejoindre un centre d'accueil en région. 772 mineurs ont été relogés à Calais même dans les conteneurs installés sur la jungle. Il reste encore entre 2500 et 4000 migrants en attente de solutions. La bataille de Mossoul se déroule comme prévu, si l'on en croit l'armée irakienne et les forces de la coalition internationale. Les soldats irakiens et les peshmerga kurdes sont aux portes de la grande ville du Nord, toujours tenue par l'État islamique. Ils ont déjà réussi à libérer plusieurs villes chrétiennes comme Karakoche ou Bartella. Aujourd'hui à Paris, les 13 ministres de la Défense de la coalition ont insisté sur ces avancées militaires. Ils ont aussi évoqué la prochaine bataille décisive contre l'État islamique, celle de Raqqa en Syrie. Élise Delève.
Daesh n'est pas tombé, mais Daesh vacille, estime Jean-Yves Le Drian. L'État islamique recule en Irak et les forces irakiennes et kurdes sont à une dizaine de kilomètres de Mossoul. Mais il y a une autre urgence pour la coalition, Raqqa, la capitale syrienne de Daesh. Ashton Carter, secrétaire américain de la Défense, parle de la présence des djihadistes comme d'un cancer.
La coalition aujourd'hui a promis de continuer avec la même détermination à faire s'effondrer le pouvoir de Daesh, non seulement à Mossoul, mais également à Raqqa, avec les forces locales qui nous permettront de le faire. Faire disparaître ces tumeurs principales que sont Mossoul et Raqqa pour Daesh en Irak et en Syrie.
Pour parvenir à reprendre Raqqa, la coalition annonce qu'elle fera comme avec les Irakiens. Elle formera et soutiendra les forces locales syriennes. Pour Ashton Carter, une victoire sur le long terme ne peut pas être gagnée par des forces étrangères. Car au-delà du succès militaire, il faut trouver qui pourra gouverner.
Élise Delève, on va terminer ce journal avec l'Espagne qui va enfin sortir du blocage politique. Le roi Felipe VI a officiellement demandé au conservateur Mariano Rajoy de former un gouvernement et cette fois le chef du gouvernement sortant devrait obtenir l'investiture du Parlement car le Parti Socialiste a choisi de s'abstenir, ce qui ouvre la voie à un deuxième mandat pour le leader de la droite espagnole, Mathieu Le Taillac.
Son investiture ne fait guère mystère. Samedi soir, probablement dimanche au plus tard, Mariano Rajoy aura obtenu la confiance de la Chambre. 137 députés de sa formation, le Parti Populaire, le PP de droite, 32 centristes de Ciudadanos et une députée d'un petit parti des îles Canaries. 170 oui, donc, dans un Parlement de 350 sièges, et bien sûr l'abstention du Parti Socialiste, du PSOE. Même si certains se rebellent contre la consigne de vote du parti, le gros des troupes permettra à Rajoy d'entamer un second mandat. Et après, il faudra à chaque loi convaincre les centristes, les socialistes ou des partis nationalistes basques ou catalans. Fini le bon temps pour lui de la majorité absolue, du rouleau compresseur comme critiquait l'opposition. Le Parti Socialiste pourra parfois s'allier avec, à sa gauche, Unidos Podemos et à sa droite, Ciudadanos, pour s'opposer aux propositions de la droite, voire pour défaire les mesures les plus critiquées de ces dernières années. Loi sur l'éducation, loi sur la sécurité, dite loi muselière, et autres mesures d'austérité. Rajoy a déclaré qu'il savait que cette législature sera celle du dialogue. Le diagnostic est lucide, mais Rajoy n'a pas l'habitude des débats et des compromis. La législature commence, oui, mais nul ne sait quelle sera sa stabilité, ni même sa durée.
Mathieu Le Taillac, la météo demain, ciel gris et bas sur une large moitié nord, un temps perturbé dans le sud-est, température maximale 12 à 16 dans le nord, 16 à 24 sur la moitié sud. 22h15 sur France Culture, vous retrouvez les discussions du soir proposées aujourd'hui par René Friedman.